Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
On vous a à distance cette semaine puisque vous vous trouvez à Ancalcate pour vivre une retraite spirituelle proposée tous les 2 ans aux évêques de différentes provinces. Vous êtes avec des évêques des provinces de Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. En tous les cas, cette retraite est faite pour les évêques de toutes ces provinces. C'est vraiment une retraite spirituelle que vous êtes en train de vivre en ces derniers jours du mois de septembre.
Eh bien, en effet, cela fait beaucoup de bien à l'abbaye d'Ancalcate, dans un beau cadre. Et puis, entre frères évêques, de vivre ce temps d'accompagnement avec un évêque qui, en ce moment, nous relie à nos frères chrétiens de Terre Sainte et plus largement, puisqu'il s'agit de Monseigneur Rafik Nahara, qui est l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Et qui donc vit à Nazareth. Et d'ailleurs, ce soir, il nous racontera un petit peu comment les choses se passent dans le contexte de la Terre Sainte en ce moment. C'est un homme qui nous plonge dans l'Écriture, avec un commentaire très très beau de la première épître de Pierre. Et on sent ses origines libanaises font de lui un sémite qui, de l'intérieur, comprend la culture et la langue dans lesquelles l'écriture a été produite. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est une très très belle retraite qui nous fait beaucoup de bien à tous.
Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette retraite et cet épître de Pierre?
Eh bien, Pierre dit de très très belles choses que je profite de cette retraite pour mettre un point final à la rédaction de la lettre pastorale que sera bientôt diffusée dans le diocèse. Et du coup, j'ai revu mon accroche de départ. Voilà, j'ai reçu une inspiration, si j'ose dire, en écoutant l'un ou l'autre des enseignements de Monseigneur Nara. Et Saint-Pierre dit de très très belles choses qui sont parfaitement accordées à ce que nous sommes en train de vivre encore et encore de notre côté.
Alors, c'est une retraite spirituelle, vous êtes entre évêques, bon, donc c'est vraiment un temps spirituel pour chacun de vous, mais on imagine quand même que vous avez le temps d'échanger entre vous, peut-être de penser à des sujets que vous aborderez lors de la prochaine assemblée plénière des évêques à Lourdes. Est-ce que c'est aussi un peu l'occasion de réfléchir ou de s'entraider sur des points de votre épiscopat?
Pas du tout. C'est vraiment une retraite spirituelle que nous vivons en silence, comme tous ceux qui sont invités à faire des retraites. Et c'est pas une session de travail où en coulisses on en profite pour régler des dossiers ou que sais-je. Chacun peut rencontrer l'un ou l'autre confrère s'il le souhaite de manière plus approfondie, mais c'est vraiment une retraite. Si quelqu'un veut rester vraiment en silence pendant 5 jours, eh bien il reste en silence pendant 5 jours. Il n'y a pas de séance de travail programmée.
Merci de prendre le temps quand même de parler via les ondes de radio présence au cœur de ce temps de retraite, Monseigneur. Alors, on va parler d'un autre sujet maintenant, c'est la pauvreté. Je voudrais qu'on aborde ce sujet. Vendredi dernier, vous étiez en centre-ville de Tarbes pour l'inauguration de l'Escale. L'Escale, c'est ce lieu, cet accueil de jour du Secours catholique hein, qui a été complètement rénové pendant près de 2 ans, qui a rouvert ses portes avec un grand nombre de services. C'était l'occasion d'entendre ben voilà, des acteurs du Secours catholique témoigner un petit peu des différentes pauvretés qui sont accueillies. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment-là? On a entendu beaucoup de choses et un peu aussi des interpellations.
J'avais déjà découvert les locaux rénovés et magnifiquement rénovés, rue Massé, là, tout près de la gare. Au mois de juin, j'étais allé bénir les nouveaux locaux et rencontrer les personnes qui, là, accueillent les gens avec toute une série de propositions d'accueil, d'accompagnement dans des démarches administratives, de secours d'urgence immédiat, d'apprentissage de la langue pour des étrangers qui arrivent, bon, etc. Et ben ça m'inspire une grande fierté. Une grande fierté, quand on fait la somme, c'est un peu ce que j'ai dit en prenant la parole, quand on fait la somme de toutes les générosités additionnées qui, au Secours catholique, mais aussi dans bien d'autres associations, viennent au secours de la détresse que vivent quantité de personnes que nous croisons sans même y faire toujours très attention, c'est très impressionnant. Et les chrétiens sont bien présents dans l'expression de cette générosité, et c'est donc une source de fierté. Et je leur ai demandé aux responsables du Secours catholique d'être un peu comme un grain de sable dans notre chaussure. Ils ont, quand ils ont décliné les missions qui sont les leurs, outre l'accueil des personnes en difficulté, il y a aussi une mission d'interpellation et d'éveil à la sensibilité que chacun doit avoir à l'égard des personnes plus pauvres. Et je leur ai demandé précisément, en rebondissant sur cet aspect de leur mission, d'être vraiment cela pour les communautés catholiques du diocèse. C'est-à-dire que non seulement ils accueillent de la générosité, ils recrutent des bénévoles, etc., ils accueillent des personnes, bon, et que des personnes individuellement s'engagent, mais c'est aussi une responsabilité de toute notre Église que d'être ainsi engagée auprès et avec les plus pauvres. Auprès des plus pauvres, pour rendre service, il y a des personnes qui sont dans des situations de grande urgence et qu'il faut aider. Et pour ça, ben, il n'y a pas de secret, hein. Il faut qu'ils se retroussent les manches et qu'ils le fassent. Mais aussi avec les pauvres pour accueillir ce que Dieu nous dit, pour notre propre foi et pour témoigner de l'Évangile auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà. C'est pas sans eux, c'est pas que pour eux, c'est avec eux.
C'est ça la
Et les
diaconie, quand on
C'est
parle
ça,
de...
oui, c'est
C'est un mot qu'on
précisément
entend de
ça.
plus en plus, ça veut dire ça?
Oui, c'est un mot qu'on a employé lors de rassemblements il y a déjà quelques années à Lourdes, il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, je crois, ou 13 ans, et puis pour un rassemblement national, et puis il y a 2-3 ans à Toulouse pour notre province, le printemps de la diaconie. C'est un terme que l'on a appris à redécouvrir. Pour exprimer précisément ce service du frère qui vient signer la vérité de notre appartenance au Christ. C'est Saint Jacques dans le Nouveau Testament qui exprime cela d'une manière on ne peut plus claire et on ne peut pas contourner. La foi sans les œuvres est morte. Si tu dis que tu as la foi alors que tu n'as pas les œuvres, ta foi, elle vaut rien, quoi. Voilà. Et donc, la diaconie, c'est un des trois piliers de la mission globale de l'Église, telle qu'elle le comprend. Il y a l'annonce de la foi, ce qu'on appelle le kérigme, l'annonce kérigmatique, la proposition de la foi. Il y a la diaconie, le service du frère. Et puis, il y a tout ce qui est la vie de la communauté, la célébration, l'accompagnement de la communauté, les sacrements, etc., etc.
Alors, on l'a vu lors de l'inauguration de ce lieu d'accueil de jour du Secours catholique, mais on pourrait le constater dans beaucoup d'endroits, des personnes qui se retroussent les manches, pour reprendre votre expression, et qui s'engagent pour et avec les pauvres, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a partout. Et pourtant, on ne vient jamais à bout de la pauvreté, des pauvretés. Est-ce que ça veut dire que eh bien, c'est quelque chose, au fond, qui est irrémédiable et que, comme le dit Jésus, des pauvres, on en aura toujours avec nous. C'est comme ça, on peut s'engager pour, avec les pauvres, mais il y aura toujours des pauvres et il y aura toujours des pauvretés.
Alors, c'est une expression, quand Jésus dit cela, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, qui veut contrarier, si j'ose dire, l'esprit mesquin ou étroit, des pharisiens qui mettent la loi avant les personnes, et surtout pour révéler, qui il est, son identité messianique, et il est l'époux, et en présence de l'époux, on fait la fête et on ne jeûne pas. Et on ne partage, enfin, on ne partage pas, si, on partage, mais enfin, bon, il y a un temps pour tout. Et quand on est en présence de l'époux, on doit d'abord se réjouir. Voilà. Mais cela dit, c'est comme le chômage, c'est comme le malheur, c'est comme le péché, on marche sur une ligne de crête. La réponse à votre question, elle n'est pas facile. Notre ambition est évidemment de désirer voir la pauvreté disparaître, la méchanceté du cœur de l'homme être arrachée définitivement, l'homme être l'homme bien qu'il désire être sans plus aucune entrave. Mais nous savons que même si le Christ, mourant sur la croix et ressuscitant le troisième jour, a vaincu le mal, Eh bien, dans le temps de l'histoire, chaque nouvelle naissance et chaque nouvelle personne qui vient au monde doit adhérer à titre personnel au Christ pour être réorienté ou orienté définitivement vers le ciel. Et que c'est à chaque fois un choix libre, personnel. On ne naît pas chrétien et débarrassé des contingences de l'existence humaine avec ses hauts et ses bas et avec ce problème du mal. Et donc, malheureusement, il y aura toujours des pauvres sans doute. Alors, on doit engager nos 5 pains et nos 2 poissons avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de nous, de la totalité de notre personne, pour offrir au Christ ce que nous avons et ce que nous sommes, pour qu'il puisse sauver le monde. Mais la victoire totale, complète, ne sera acquise qu'à la fin des temps.
Je voudrais qu'on inverse les choses et qu'on s'interroge sur ce que les pauvres, eux, font pour nous. Puisque finalement, là, dans notre échange, et c'est comme ça, assez spontanément, on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ou avec eux. Est-ce qu'on ne peut pas, de temps en temps, inverser les choses et se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'ils font, eux, déjà pour nous?
Je crois que c'est pas complètement la bonne façon de poser la question, ou en tout cas d'aborder la question, parce que on reste dans le même schéma où quelqu'un fait quelque chose pour quelqu'un d'autre.
Oui.
Alors soit nous pour les pauvres, soit les pauvres pour nous, mais on est toujours dans le même schéma où il y en a un qui se penche au-dessus de l'autre. Or, c'est pas cela que le Christ attend de nous, et c'est une grande découverte de l'événement diaconia justement. D'il y a 12 ou 13 ans ou plus, je sais plus, à Lourdes, où on redécouvre ce que Vincent de Paul avait exprimé d'une formule en disant les pauvres nous évangélisent. C'est-à-dire, c'est pas un qui prend soin de l'autre et réciproquement. C'est l'expérience que l'on fait à Lourdes aussi avec les pèlerinages de malades, et les hospitaliers témoignent de cela. Très très vite, les barrières personnes en bonne santé et personnes malades disparaissent, et on est des pèlerins côte à côte, et les deux se disent quelque chose disent quelque chose à l'autre de la part du Seigneur, quoi. Chacun a sa grâce propre. Alors le malade, il a sa grâce propre d'être malade. Et comme malade, il révèle quelque chose du visage de Dieu à celui qui ne l'est pas, et inversement. Eh bien, les pauvres, c'est exactement la même chose. Alors parfois, c'est délibéré, parfois, c'est à leur insu, mais on est invité à entrer dans un autre paradigme dans notre relation avec les autres personnes, y compris les pauvres, mais avec toutes les personnes d'ailleurs. Parce qu'il y a 36 000 formes de pauvreté. Ce n'est pas que la pauvreté matérielle. Il y a la maladie, la pauvreté psychique, il y a la pauvreté sociale, il y a la pauvreté spirituelle. Il n'empêche que tous, nous sommes pèlerins sur une route vers le Seigneur, et que Dieu parle à chacun, et que chacun est prophète de la part de Dieu auprès des autres, et a quelque chose à dire de la part de Dieu aux autres. Et donc, la conversion à laquelle nous sommes invités, c'est d'ouvrir notre cœur et nos oreilles pour être prédisposés à accueillir ce que Dieu nous dit, d'où que ça vienne. Voilà, d'où que ça vienne, en étant prêt à ce que ça vienne de partout. Parce que, ben, encore une fois, notre manière d'être avec nos frères plus pauvres signe notre manière d'accueillir l'Évangile.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. C'est la fin de cet entretien pour cette semaine. On va vous retrouver la semaine prochaine. On peut indiquer pour ceux qui nous écoutent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes que ce week-end, vous serez dimanche matin à Riolès pour la fête de la Saint-Michel dans ce village de Riolès où les habitants se sont mobilisés pour prendre soin de leur patrimoine religieux, de leur église. Et puis dimanche après-midi, vous serez en Haute-Garonne pour la messe de rentrée du mouvement des guides et scouts d'Europe avec les guides et les scouts d'Europe, à la fois de Tarbes et puis ceux de Haute-Rive.
Et puis de Toulouse, du diocèse de Toulouse et de l'Ariège.
Et de l'Ariège. Merci beaucoup, Monseigneur. Bonne fin de retraite à vous avec
Bonne
les
semaine,
évêques.
merci beaucoup, Androse.